Biambulation. Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa. Vendredi 28 septembre, Erdiwa était présent sur l'écocide d'Eure lors des deuxièmes rencontres nationales énergie et territoires ruraux organisées par Biovallée. Nous n'y étions d'ailleurs pas pour faire de la radio, mais pour essayer de collecter de l'argent pour Erdiwa qui en a bien besoin en tenant le stand buvette présent sur l'écocite. Ceci dit, Lily et moi-même sommes partis quelques instants pour essayer la voiture électrique Twizy, elle-même présentée sur l'écocite par son constructeur Renault. Dans un premier temps, vous vivrez l'essai en direct par les deux apprentis pilotes d'essai de Erdiwa. Ensuite, Rodolphe, un pilote instructeur collaborant avec Renault Sport, répondra à quelques-unes de nos questions sur la voiture électrique. En avant toutes.
Rodolphe, comment fait-on pour entrer dans la machine ?
Très simplement, vous avancez le siège le plus en avant possible, comme sur n'importe quel siège de n'importe quelle voiture. Une petite barre devant que vous tirez.
Je tente en même temps.
Allez-y.
La petite barre devant.
Voilà, et vous poussez le siège.
Voilà.
Alors là, l'accès peut paraître difficile, mais vous voyez qu'une fois à bord, on est mieux que dans une petite saline parce qu'on a les bras tendus, les jambes tendues, on peut étendre les bras, les jambes, on a la tête droite, on n'est pas plié en quatre.
Très bien.
Allez-y, à vous de jouer.
J'y vais.
La jambe gauche d'abord. Et on s'installe, une jambe de chaque côté du siège. Voilà, mettez-vous à l'aise. Je vous laisse passer la ceinture de sécurité.
Et ce modèle s'appelle ?
Donc la Renault Twizy.
La Renault Twizy.
La Renault Twizy qui est le plus petit véhicule de la gamme Z2, Renault électrique. Qui est distribué et on a déjà 7000 exemplaires vendus en Europe. Pour tirer le siège, vous pouvez tirer la languette en tissu qui est tout en bas. Sur la gauche, là, la petite languette un peu plus à droite. Voilà. Vous tirez dessus et vous pouvez le ramener.
Parfait. Alors maintenant, c'est à moi de régler le siège, j'imagine.
C'est ça. À vous de le régler comme
alors,
bon vous semble.
Alors, c'est une automatique.
Alors, c'est pas une automatique, il n'y a pas du tout de boîte de vitesse, en fait.
Ah, comment ça ? Alors, il y a un accélérateur, un frein.
Un accélérateur, un frein, un moteur électrique. Point final.
Hop.
Alors, la ceinture, on va commencer par passer celle-ci.
Ah ouais.
On enfile à droite comme une rotelle de sac à dos. Voilà, simplement comme ça. Et l'autre, en croisée. La version de base du véhicule n'a pas de portière. Donc il est indispensable d'avoir les ceintures des deux côtés pour
très
pas
bien
tomber. Alors, pour démarrer le véhicule, on fermera les portières après.
Ouais.
Donc une pédale pour accélérer, une pour freiner. Vous ne serrez pas du pied gauche, surtout.
D'accord.
Ça pourrait être risqué, tout au pied droit.
Il n'y a pas d'embrayage, quoi.
Il n'y a pas de pédale d'embrayage. Et le pied gauche ne sert à rien. Pour démarrer, donc, vous mettez le pied sur le frein, s'il vous plaît. Et le pied droit. Et alors, on va tourner. Premier cran, on déverrouille le volant, comme sur n'importe quelle voiture. Deuxième cran, contact électrique. On attend que les voyants s'éteignent. Et quand ils sont éteints, troisième cran, le moteur est en marche.
Là, c'est en train de tourner, là.
C'est en train de tourner. Quand vous accélérez, en tout cas, il est prêt à partir.
Là, si je lâche le frein, elle ne part pas,
elle
la
ne part
voiture.
Pas.
Il faut pour ça que j'accélère.
Bien sûr.
D'accord.
Alors là, d'autant plus que vous avez le frein à main dans le plancher.
Alors
le frein à main, si vous voulez, le véhicule se ferme pas à clé, c'est comme une moto, on le laisse dans la rue comme ça. Pour éviter que quelqu'un de mal intentionné vous desserre le frein à main, il faut avoir mis le contact et avoir le pied sur le frein pour pouvoir desserrer le frein à main.
Alors, où se situe le frein à main ?
En bas, à gauche, sous le tableau de bord.
Sous le tableau, donc c'est cette petite
voilà
manette.
Vous tirez la manette en appuyant sur le bouton et vous la relâchez comme n'importe quel frein à main.
Alors, je suis handicapé de la main gauche.
Ah, je voulais que je le fasse ?
Alors, non, je vais tenter. Alors, ouais, je ne peux pas.
Vous avez pensé aux gens qui sont handicapés de la main gauche alors ?
On trouvera un montage, on verra avec le chef d'atelier. C'est un frein à main dérivé de l'automobile, c'est un frein à main qu'on trouve sur les Kangoo, donc on peut adapter après des pièces éventuellement, ça se fera sur mesure, mais ça peut se faire sans trop de soucis.
D'accord.
Alors là, le moteur est en marche, on est au point mort, vous voyez, c'est indiqué N sur le tableau de bord.
Ouais.
Si on appuie sur D, on est en première, enfin en marche avant.
D'accord, combien de vitesses ce véhicule contient-il ?
Pas de vitesse.
Pas de vitesse.
Marche avant, marche arrière, point
c'est
mort.
Tout.
C'est tout.
Ok, donc là j'ai mis le pied sur le frein.
Vous avez le pied sur le frein, ouais. vous pouvez lâcher le frein, il ne se passera rien. Hein.
D'accord, il nous voilà suffit juste d'accélérer pour engendrer le mouvement.
Exactement. Attention, le freinage n'est pas assisté comme dans une autre voiture. Il n'y a pas de master vague, pas de pompe d'assistance. Donc c'est à vous de freiner fort.
D'accord.
Ça reste acceptable dans la mesure où le véhicule est très léger, mais il faut freiner un peu plus fort que dans une voiture normale.
Très bien.
Ok ? Je vous ferme les portières. Et l'itinéraire idéal, c'est de partir là-bas à gauche, derrière le camion avec les bandes rouges et blanches.
Oui.
Et vous rentrez sur le chemin, vous faites le tour de l'écosite et vous pouvez revenir par le parking sur du bitume.
Parfait.
Vous ferez un petit peu de tout. Alors, pour évacuer des piétons qui vous gênent, il y a deux solutions. Il y a le klaxon qui est un petit peu agressif, sinon il y a l'avertisseur piéton.
Donc ça, ils nous entendent alors.
Ça, ils vous entendent et ça permet de le faire de manière un peu moins agressive qu'un coup de klaxon.
Et le klaxon, on peut le tester ou pas ?
Il est là.
Ah oui, ça marche bien.
Voilà.
Donc alors là, je vais arrêter le klaxon.
Voilà, vous.
Ah.
Alors non, là, c'est parce que le mode drive, le mode marche avant est enclenché et vous n'avez le pied ni sur le frein ni sur l'accélérateur. C'est pour éviter de descendre en oubliant de couper le contact.
D'accord.
Simplement.
D'accord. Et sinon, alors comment je dois faire ?
Alors sinon,
rappelez-moi la manœuvre.
Si vous voulez faire quoi ?
Juste l'avertisseur.
L'avertisseur, vous tournez la molette du Komodo de phare.
D'accord. OK.
Là, on a les phares. Veilleuse, code, plein phare, comme sur une voiture normale.
Ouais.
Le klaxon, les clignotants, les essuie-glaces de l'autre côté, le dégivrage du pare-brise qui est une
option. D'accord. Très bien.
Voilà. Vous êtes prête ?
Je suis prête.
Eh bien, ça va être à vous de jouer. Dès que mon collègue se sera poussé avec l'affluence, vous pouvez y aller.
C'est parfait. Merci.
Bon essai.
Merci. Donc, première sensation, te sens-tu bien installé
La première chose que je ressens, effectivement, c'est le silence impressionnant du moteur qui, bien qu'il soit en route, ne produit pas le moindre son, effectivement. Mais ça, c'est classique des moteurs électriques, je suppose.
Première sensation, j'ai l'impression d'être dans une voiture de golf.
Parce que tu as déjà fait du golf, Lily ?
Bien que je n'ai jamais fait de golf.
Alors, nous faisons du 12 km/h déjà. On entend un léger bruit de pignon. Il y a une dame en face.
Observons les réactions. Les gens sont interloqués, n'est-ce pas ? Alors, je vais prendre un petit peu de vitesse.
Allez, vas-y ! Appuie sur le champignon ! Voilà !
24 km/h.
Et si tu lâches le champignon, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un frein...
Je freine.
Super.
Oh, très bien. C'est très réactif. Alors, il m'a dit d'emprunter. Quel accès ? Et effectivement, les gens ne nous entendent pas. Voilà, premier piéton qui ne se retourne même pas lors de notre venue. Voilà, hop, on y va, c'est parti. À droite. Et là, on va faire un petit peu, on va rouler.
Ça accélère fort, hein. Ça c'est classique des moteurs électriques.
Et alors, ça a une vraie...
Accélération.
Une vraie reprise, ouais. Ok, hop. Nous allons à droite. Je ne sais pas où nous allons, mais nous y allons.
Ah, c'est un peu désagréable, le son électrique, je trouve. C'est pas le bruit d'une Ferrari Testarossa, en fait.
Alors, là, on a une belle ligne droite qui s'offre à nous. On va essayer de faire une pointe d'accélération.
Lily, fais attention parce qu'on n'a plus beaucoup de batterie. Regarde, on voit une énorme batterie.
Effectivement, mais nous sommes à deux traits. Il a dit qu'on était autonome. Un petit peu encore.
La suspension est ferme quand même.
Ah ouais, nous absorbons chacun des chocs que la voiture devrait, elle, normalement absorber. Allez, je sais la pointe. 72 km/h. 75, 76. Ralentir. Je vais tenter une manœuvre qui est difficilement...
Ça a l'air de très bien braquer.
Nous allons au rond-point, jusqu'au rond-point pour voir quelle tenue de route ce véhicule nous propose. Donc là, nous sommes sur une départementale, je dirais. Hop, allez, rond-point. Donc ça se conduit très, très facilement. La reprise est bonne. Ça a l'air de tenir. Hop, le rond-point est dépassé. Nous retournons à l'éco-site. Donc, il faut quand même qu'on explique aux auditeurs que Louis est installé derrière moi, les jambes écartées, comme sur une moto, sauf qu'il est installé avec un dossier.
Ouais, ça fait un peu caisse à savon, pot de yaourt quand même.
Complètement, et c'est hyper sec. C'est-à-dire que ouais, vraiment on ressent chacune des secousses de la route. Hein. Ah, ça y est, la batterie arrive à son dernier cran.
J'espère qu'on ne reste pas en carafe.
Donc nous y sommes, hein, pas d'inquiétude, mais effectivement, voilà, là, le voyant lumineux nous informe qu'il nous faut nous brancher, nous connecter. Donc, il y a un stop, nous allons tester le frein. Parfait.
C'est parfait. Hop, c'est reparti.
Voilà. Alors, marche arrière. Y a-t-il une marche arrière ?
Il y a une marche arrière, c'est R.
Ah d'accord.
Pour rire. Hop.
Ça sent le freinage du pied gauche. Ça sent le freinage.
J'ai failli. Je me suis reprise, effectivement. Oui.
On peut avoir l'impression d'avoir calé, mais
impossible
non.
Impossible de caler un moteur électrique.
Impossible. Il suffit de repartir et hop, c'est reparti.
C'est chouette, hein ? C'est rigolo. On se gare ici ?
S'il vous plaît.
Voilà, donc
en marche arrière.
Oui, en marche arrière.
Démarrer, R pour reculer.
Nous sommes arrivés.
Je me libère de ma ceinture électrique.
Juste une petite sensation, Louis. Comment as-tu vécu le voyage ?
Eh bien, effectivement, on a atteint du 75 km/h sur une route avec des nids de poules. Ce n'était pas si sécurisant que cela, j'ai trouvé.
Voilà.
Ça saute un peu caisse à savon, pot de yaourt.
C'est vrai.
Je vois en face de nous, il y a l'affluence Z2 qui doit être légèrement plus confortable.
Et juste avant de passer à une conversation à bâton rompu avec Rodolphe, à propos d'un certain nombre de questions que nous avions sur la voiture électrique, je vous propose d'écouter une chanson prédestinée d'un groupe prédestiné, puisqu'il s'agit de Just What I Needed par le groupe The Cars. Donc Just What I Needed, c'est juste ce dont j'avais besoin. Alors peut-être, je ne sais pas. Et The Cars, c'est Les Voitures. C'est un morceau qui date de 1978.
Donc nous sommes avec un vendeur de chez Renault qui s'appelle Rodolphe, c'est bien cela ?
Pas du tout.
C'est pas Rodolphe ?
Je suis désolé. Si, mais je suis pas du tout vendeur.
Ah, vous êtes quoi ? Voilà.
Je suis pilote instructeur. Je collabore avec Renault à la base pour les projets Renault Sport sur leur journée circuit. Ma spécialité est d'encadrer les essais le fait de rouler sur circuit avec des voitures sportives. Et suite à cette collaboration avec Renault, on se retrouve à encadrer aussi les 7 véhicules électriques par notre expérience, notre vécu technique et voilà ce qu'on peut apporter. Après, les vendeurs se chargent de la partie commerciale des choses et des tarifs et des chiffres sur lesquels ils sont beaucoup plus doués que nous.
Alors, je ne sais pas si vous êtes habilité à parler de ce genre de questions, mais moi, j'ai un certain nombre de questions qui me turlupinent vis-à-vis de la voiture électrique.
Dites-moi tout.
La première question qui me paraît un petit peu turlupinante, justement, c'est cette question de prise électrique qui n'est pas standard. Comment se fait-ce que Renault se lance dans l'aventure de la voiture électrique sans qu'auparavant, les constructeurs automobiles se soient mis d'accord sur une prise universelle ?
Alors, parce que Renault est précurseur et du coup, je dirais, essuie un peu les plâtres. Cela dit, sur Twizy que vous venez d'essayer, on a une prise complètement standard, une prise de 120 que tout le monde a chez soi, et on recharge le Twizy en 3h30 pour 100 km d'autonomie, sur n'importe quelle prise de 120 volts.
100% de la batterie est rechargée en...
Tout à fait.
3h30.
Ouais.
Seulement 100 km d'autonomie.
Pour un véhicule urbain, c'est déjà pas mal. On fait rarement plus de 100 km en ville tous les jours. Et 3h30, on arrive au boulot le matin, on peut la brancher et repartir avec, même pour aller manger à midi.
J'ai entendu dire qu'il y avait d'autres solutions. On pouvait interchanger les batteries dans une espèce de station-service.
Voilà, le drop and go, on peut... Alors, c'est un projet, ça, on va le mettre en place. C'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui de louer les batteries. Vous achetez la voiture, mais vous n'êtes pas propriétaire de la batterie. Elle vous coûte un peu moins du prix d'un plein d'essence par mois. Je sais pas, une somme faramineuse. Et ça vous permet d'avoir toujours une batterie en état de fonctionnement. Le jour où elle est défectueuse pour une raison X ou Y ou pour une simple usure, ben vous avez une batterie neuve sans surcoût. Et effectivement, quand on arrivera à mettre en place ce système de station-service de batterie, en 3 minutes, on peut changer la batterie d'une Renault Z2. Donc bah vous arrivez en station-service, moins de 3 minutes après, vous avez fait le plein, si on peut appeler ça comme ça.
Alors, une des raisons pour laquelle Renault s'est lancé dans l'aventure électrique, c'est pour des considérations de type biologique, développement durable. Mais est-ce que c'est tellement biologique? D'où va venir l'électricité, en fait?
L'électricité viendra bien entendu, pour, en France en tout cas, pour grande partie, des centrales nucléaires. Si on veut se déplacer, ça implique de l'énergie, et l'énergie, il va falloir de toute façon la trouver quelque part. Aujourd'hui, l'électricité, c'est une des seules énergies qu'on est capable de produire proprement, si j'ose dire. Alors, même si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est peut-être la seule porte ouverte vers l'avenir. Maintenant, à aucun moment on va prétendre chez Renault que la voiture électrique est la solution d'avenir pour l'automobile. Aujourd'hui, la vraie solution est dans un panachage. Et en ville, l'électrique me semble être un bon choix. Pour autant, il ne faut pas forcément renoncer au diesel ou autre sur la longue route.
J'aurais juste envie de revenir sur ce système de prise électrique.
Ouais.
Pourquoi aujourd'hui l'éco-site d'Eure, sur lequel on se trouve, est équipé des prises justement compatibles avec vos systèmes
Alors, pour
de
les
batterie.
Gros véhicules, pour Kangoo et Fluence Z2, qui elles ont deux systèmes. Soit une prise effectivement spécifique Renault, qui marche sur du triphasé, l'adaptateur est fourni. Soit on peut aussi brancher Kangoo ou Fluence sur une prise de 120 classique. La charge est par contre beaucoup plus longue et la raison elle est toute bête. Si vous voulez recharger rapidement une batterie, il faut un abonnement spécifique.
Non. Pourquoi l'éco-site d'Eure est-il équipé des prises Renault compatibles avec vos véhicules? Est-ce une initiative de Renault?
Ah pardon, j'ai mal compris la question. Aujourd'hui, le fabricant des bornes est venu exposer ses bornes.
D'accord.
Ah, non seulement vous exposez vos voitures, mais le fabricant de bornes expose ses bornes.
Voilà, exactement.
D'accord. Une opération conjointe.
Une opération conjointe, et c'est un développement conjoint de toute manière.
Mais ça va quand même poser un problème. Imaginez sur les stations d'autoroute, les futures voitures électriques devront avoir des bornes par marque.
Alors ça va être un problème, je pense qu'on verra si ça se produit fleurir les adaptateurs. Mais encore une fois, à mon avis, est-ce que l'électrique a réellement sa place sur une station d'autoroute?
Ouais,
je suis pas sûr.
Station-service.
Station-service, station d'autoroute. J'entends que, à mon avis, l'électrique convient à un usage de chez soi au bureau, du bureau à chez soi, pas sur une longue route. Je pense pas que le fait de recharger en route soit compatible avec un véhicule électrique aujourd'hui.
Si je puis me permettre, combien un véhicule, non pas le Twizy, mais combien un véhicule... Allez, on va prendre la jolie... C'est une berline là-bas.
La berline, l'affluence.
Voilà, l'affluence. Combien un véhicule de ce type peut-il coûter à l'achat?
Écoutez, alors là, on tombe dans ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le
vous
prix,
n'êtes pas un vendeur.
Le prix, c'est pas du tout mon domaine. Je crois qu'on est aux alentours, je crois que c'est 26 ou 29 000 euros.
29 000
le prix de la voiture.
Pensez-vous que des allers-retours, domicile, travail, justifient un investissement d'une telle ampleur?
Alors là, on ne remet pas en cause simplement l'automobile électrique, mais l'automobile en général. Aujourd'hui, des gens achètent des voitures neuves pour des raisons qui leur sont propres, le plaisir d'avoir sa voiture, de l'avoir configurée à son envie, de posséder un objet dans lequel on est le premier à s'asseoir, et pour des raisons comme ça qui sont totalement subjectives. Et si on est objectif dans l'industrie, on va loin.
Alors, moi j'ai une autre question, mais vous n'êtes pas forcément Renault, mais moi il y a un truc qui me turlupine encore une fois chez Renault.
Ouais.
N'ont-ils pas été trop loin en pariant sur le tout électrique et en ne développant pas des hybrides pétrole ou hybrides diesel?
C'est un axe de développement qu'a choisi Renault. On peut voir les choses sous un autre angle et se dire qu'aujourd'hui, l'hybride, ça nous rend toujours dépendants du pétrole. Et du coup, on n'évolue pas.
Oui, mais c'est la stratégie des petits pas, peut-être. Tandis que là, ils vont tellement loin que vont-ils être trop loin pour que le marché les suive? Parce que c'est quand même un pas technologique radical quand même.
Prenez l'exemple de Twizy aujourd'hui. Renault est autonome sur Twizy, dans la mesure où on dépend du réseau EDF standard. On n'a pas de contraintes, on ne doit rien à personne sur Twizy. Et aujourd'hui, si Twizy correspond à votre usage, moins de 80 km par jour et de l'usage urbain, rien ne vous empêche de choisir Twizy et ça, vous pouvez vous engager sur la durée. On peut se dire, j'achète une Twizy pour les 20 prochaines années sans quoi que ce soit ne gêne.
Parce qu'à l'usage, le moteur électrique, les pièces mécaniques, ça ne s'use pas plus que ça?
C'est plus fiable qu'un moteur mécanique, justement, qu'un moteur thermique. On n'a pas de vidange, on n'a pas d'histoire de courroie, on n'a pas d'explosion dans le moteur. Hein. C'est un aimant, des moteurs électriques, on en voit tourner à longueur de temps chez nous.
Donc j'imagine que l'entretien, la réparation est entretenue par les services de chez Renault.
Tout à fait.
Que moi, en tant qu'utilisateur d'une Twizy ou bien d'une berline du type qu'on a mentionné en amont, qu'est-ce qui m'est possible de faire s'il m'arrive une panne?
Alors, si vous arrive une panne, déjà on a un contrat qui est lié à ça avec du dépannage, avec toutes ces choses-là. Ça fait partie de... Quand on achète, il y a un package qui va avec un dépannage, une assistance, etc. Maintenant, une panne, les pannes qu'on trouve aujourd'hui sur les moteurs thermiques, ça va être des vannes EGR, des débitmètres, des pannes électriques un peu bêtes, qui n'ont pas leur place sur un moteur électrique. Aujourd'hui, un moteur électrique, hein, ça tourne, on met du courant, il tourne, il n'y a pas plus simple comme fonctionnement. Le rendement est en plus meilleur.
Autant le moteur est bon qu'il est difficile de stocker l'énergie, tandis que sur les moteurs à pétrole, c'est le contraire.
C'est
le rendement est mauvais, mais par contre, c'est facile de stocker de l'énergie dans l'essence.
Et c'est le problème de l'électricité aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas la stocker. Et c'est pas un problème lié à l'automobile. Si on savait stocker l'énergie, on n'aurait pas de problème en hiver de devoir acheter de l'électricité ailleurs. Si on savait stocker cette électricité, on en fabriquerait toute l'année en flux tendu à rythme normal, en économisant du coup des ressources énergétiques, et on aurait quelque chose de plus stable et de plus...
Ce qui m'amène à ma dernière question. Encore une fois, nous avons un pari qui se veut écologique, mais qui fait appel à ce qu'on appelle le lithium, hein, les batteries lithium-ion, qui est une ressource très très rare et dont une grande majorité
se trouve en Chine.
En Chine, alors qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus de lithium?
Quand il n'y aura plus de lithium, alors sur Twizy, on a une batterie lithium-ion. Dans l'absolu, on pourrait remplacer par n'importe quel type de batterie pour qu'elle ait les mêmes formats, les mêmes connectiques. Un autre système de batterie qui est capable d'accumuler et de redonner du courant serait compatible. Là où, pour adapter un moteur thermique, il faudra faire des adaptations... compliqué. Aujourd'hui, une autre batterie, on pourrait mettre des batteries au plomb. Tata, par exemple, le constructeur indien, propose une Tata Nano électrique avec des batteries au plomb. On pourrait...
C'est un moindre rendement aussi.
C'est plus lourd. Les batteries subissent, ont un effet mémoire, donc si on ne fait pas des cycles de charge complets, elles s'usent beaucoup plus vite, elles se déchargent au fil du temps sans être utilisées, elles ont beaucoup plus d'inconvénients. En plus, elles polluent encore plus.
Oui, parce qu'au niveau du recyclage des batteries de lithium-ion, qu'est-ce qui se passe?
Il y a des entreprises spécialisées dans le recyclage. Là encore, on touche à un domaine qui n'est pas vraiment le mien. Je sais qu'on le recycle d'une certaine manière. Maintenant, c'est forcément des résidus. De toute manière, il est, à mon avis, illusoire d'imaginer se déplacer sans produire un déchet quelconque.
Ah, mais vous avez entendu parler des moteurs à eau, par exemple? Il y a des municipalités qui fonctionnent avec des moteurs à eau, hein, avec 30% de consommation. Alors, c'est encore du pétrole, hein, ou des huiles.
Ouais, alors, le moteur à eau, c'est comme les carburants bioéthanol et autres. C'est bien, mais aujourd'hui, le bioéthanol, ça fait que le prix du blé augmente et qu'il y a certaines populations qui ne peuvent plus acheter de blé pour faire du pain. Et si on taxe l'eau, on a déjà un gros problème de consommation d'eau sur la planète. Si l'eau devient un carburant, c'est une situation qui va faire qu'empirer. Est-ce qu'on peut exploiter l'eau pour se déplacer? Ou est-ce qu'on doit se contenter de la boire?
C'est de vastes débats et on ne va pas le régler aujourd'hui.
Ça, malheureusement, je pourrais pas. J'ai pas la réponse.
Je pose
des questions, mais...
Nous aimons bien titiller...
Je vois, voilà. Je vois. Et effectivement, il n'y a pas de réponse à cette question. Hein. C'est une question... c'est humain, c'est physique, je dirais même. Si on veut se déplacer, soit on le fait à pied, en vélo, à la force mécanique, mais si on veut un véhicule pour nous déplacer plus vite, plus confortablement, ça produit forcément un déchet à un moment donné.
Alors, la Twizy, elle est lancée sur le marché depuis combien de temps?
La Twizy, ça fait un peu plus d'un an qu'elle est sur le marché.
Donc 7000 exemplaires ont été vendus, vous nous avez dit
au travers de l'Europe.
Et vous avez un petit peu le prix, non?
Alors le prix, en gros, la version de base du Twizy 80 est à 7000€. 80, c'est le Twizy avec permis de conduire limité à 80 km/h.
D'accord. Il existe celui sans permis.
Voilà, il y a un Twizy 45 qui tombe à 6000€, 5500, je ne sais plus exactement le tarif, qui lui est accessible sans permis de conduire et qui sera limité à 45 km/h comme le veut la législation des véhicules sans permis.
J'ai envie de compléter quand même ma question sur les réparations et l'autonomie en termes de réparation. Sont-ce des pneus qui crèvent?
Alors oui, ces pneus peuvent crever et on peut les changer.
Ai-je les moyens de les changer?
Bien sûr. Alors là, c'est même plus facile parce que le fait de soulever cette voiture avec un cric pose a priori aucun souci. Elle fait moins de 400 kg et vous changez les pneus comme sur n'importe quelle voiture.
À peu près la seule réparation que je pourrais effectuer sur mon
véhicule. Également changer les plaquettes de frein, les disques de frein. Et allez, si je veux être un petit peu tatillon dans ce qui est mon domaine, on a un châssis mis au point par Renault Sport. Vous pouvez observer les biellettes de direction, les biellettes, les trains roulants. Tout est réglable. Donc, on parle donc de carrossage, on va parler donc de chasse, de pincement, des termes un peu techniques. On peut les modifier soi-même dans l'absolu si on est bricoleur. Je le recommande que si on sait ce qu'on fait. Hein, mais...
Et par contre, ce ne sont pas encore des pneus de type comme Michelin en a développé, savoir le moteur est dans le pneu. Ouais.
Non, du tout. Le moteur est dans la voiture. On a un pneu standard. Alors, moteur dans le pneu ?
Bien sûr. Les moteurs Michelin, je ne sais plus comment ils s'appellent, le moteur est dans la roue.
Dans la roue. Oui. Non. Là, le moteur entraîne l'essieu arrière de la voiture. Donc, les deux roues arrière.
D'accord.
Il n'est pas dans la roue, il est sur le châssis, vraiment. Effectivement, on a des moteurs dans les roues sur les véhicules hybrides maintenant, où on a un petit moteur par roue plus le moteur thermique sur les deux autres.
Voilà.
Ça c'est courant. On n'en est pas là, on a cherché une solution simple pour faire un véhicule accessible en termes de coût.
Donc pour vous, l'usage de ce genre de petite voiture, c'est vraiment l'urbain ?
C'est l'urbain à mon avis. On prend l'exemple du Kangoo. Le Kangoo électrique qu'on propose là, il vaut le prix d'un Kangoo diesel à l'achat, si on tient compte de tout ce qui est bonus, aide gouvernementale et autres. On est au même prix qu'un Kangoo diesel. Si je suis un artisan en ville qui fait moins de 100 km par jour, je prends un Kangoo diesel, un Kangoo électrique. Pour le même prix, j'ai un Kangoo plus performant, plus propre, silencieux et qui me coûte moins cher à l'usage.
Oui, mais qui peut écraser des passants parce que les gens ne nous entendent pas quand même. Hein.
Alors, on a un système d'avertisseur piéton. Effectivement, il y a ce risque et je pense que si on veut faire évoluer les villes vers quelque chose de plus silencieux, vous avez entendu le projet de baisser la vitesse du périphérique à 70 pour faire moins de bruit, pour tout ça, il va falloir que les piétons apprennent pas juste à écouter mais aussi à regarder. Ça va être à tout le monde de s'adapter. Les automobilistes vont devoir faire un effort en faisant moins de bruit et les piétons devront faire un effort en regardant autour d'eux.
Alors nous à RDWA, on a pensé à vous proposer une petite solution, un contrat d'exclusivité pour que toutes les voitures électriques diffusent RDWA.
Écoutez, je suis pas à même de le signer, mais pourquoi pas, c'est une idée. Est-ce qu'on capte RDWA partout en France?
Mais tout à fait, parce que nous sommes écoutés partout dans le monde puisque nous sommes avant
en web
tout
radio.
En web radio.
D'accord.
Donc, si vous voulez, à partir du moment où il y aurait une connexion Wi-Fi un peu partout, nous pourrions diffuser RDWA sur toutes les voitures électriques.
Parfait.
Donc, écoutez, je contacterai votre service marketing alors.
Sans problème.
Allez, merci.
Il n'y a pas de quoi.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions qui ont été parfois tatillonnes.
Ouais. Bien pas de quoi, avec plaisir. N'hésitez pas si vous en avez d'autres.
Et puis, nous vous souhaitons une bonne journée.
À vous aussi et bon, profitez bien du salon.
Voilà, merci. Au revoir.
Merci à vous.
Déambulation.